Alors bonjour à tous. Vous avez les salutations de l'église d'origine de Josué, donc à Weislingen, c'est dans le nord-ouest du Bas-Rhin, après Saverne. Voilà, c'est un peu loin d'ici, à 2 heures d'ici, mais voilà, nous partageons la même foi, nous avons le même Seigneur et la même parole de Dieu. Alors, ah ouais, il faut que j'allume ce machin. Bon, il est allumé peut-être? Tu peux mettre là. Alors j'aimerais commencer ce matin par une question. Qui aime passer les vacances à la plage? Ouais, quelques-uns. Ok. Qui préfère la montagne? Oh, un peu plus. Allez, hop. Bon, on va pas faire d'histoire ce matin pour ça. Alors, c'est plutôt pour poser une question. Est-ce qu'il faut les mêmes équipements pour la plage et pour la montagne? Non? Non, d'accord. Ok. Ben pour la plage, il faut plutôt ça, n'est-ce pas? Voilà. On rêve de chaleur, hein, parce que l'hiver est un peu long. Et je peux comprendre, voilà. Et pour la montagne, il faut plutôt autre chose, hein, parce qu'avec les sandalettes et les tongs sur la montagne, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, il va falloir. Ah, on ne le voit pas trop bien peut-être, mais voilà, des équipements vraiment sérieux. Alors, c'est pour introduire ce que... de parler d'équipement ce matin. Josué a dit que je vais prêcher de Timothée, effectivement. Et nous avons un texte, un super beau texte aussi dans Timothée, qui nous est laissé par l'apôtre Paul. Il était emprisonné une nouvelle fois à Rome, et l'apôtre Paul, et il se sentait seul et abandonné, et savait que sa vie terrestre allait bientôt arriver à son terme. Et la deuxième lettre à Timothée contient ses dernières paroles. Paul regarde au-delà des circonstances et exprime son inquiétude pour les églises, tout particulièrement aussi pour Timothée. Il veut l'encourager par ses dernières paroles, avec tous les autres croyants aussi, à persévérer dans la foi et à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et la gravité des circonstances, mais aussi la qualité de la relation qu'il a avec Timothée, font de cette lettre une lettre personnelle et une des plus touchantes. Timothée est là maintenant devant une montagne. Une certaine montagne, et cette montagne consiste à recadrer des prédicateurs, je ne vais pas faire tout l'historique, mais à recadrer des prédicateurs corrompus dans l'Église qui posent des problèmes dans l'Église d'Éphèse. Et cela, il devra affronter cette montagne sans la présence de Paul. Il est seul. Paul est en prison, lui, il est là maintenant, et il doit résister à ces prédicateurs. C'est une montagne devant lui. Et j'ai trouvé dans les premiers 8 versets quelque chose de formidable, c'est que Dieu va équiper. Équiper, comme ici, quand on va en montagne, il faut de l'équipement. Il va équiper Timothée pour affronter cette montagne. Et j'espère que cela vous encouragera aussi pour vos montagnes que vous avez déjà, que vous aurez encore à gravir, que nous aurons encore à gravir dans cette semaine, dans les mois, peut-être dans les années à venir. Alors on pourrait lire les 1 à 8 et je voudrais que plusieurs puissent lire ces versets. Voilà, ça c'est sa parole. Et cette parole, nous allons juste voir quelques éléments là-dedans. Et je trouve que c'est un encouragement pour Timothée tout d'abord et j'espère que ça l'a été pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Alors j'ai trouvé dans ces 8 versets 7 équipements que Dieu donne à Timothée pour affronter ces montagnes. La première chose, nous le trouvons dans le verset 3. Il dit, continuellement, nuit et jour, je pense à toi, c'est Paul qui parle, dans mes prières. Un soutien fidèle dans la prière. Un équipement, ça c'est un équipement. La prière de Paul pour son fils adoptif. il l'a rassuré. Je prie pour toi. Nuit et jour, vous voyez, c'est fort, hein. Continuellement, je pense à toi dans mes prières. Et Timothée savait, je ne suis pas seul, quelqu'un prie pour moi. Je vous pose une question, sais-tu que des frères et sœurs prient pour toi? Oui, pour toi en particulier. Est-ce que tu le sais? Tu n'en es peut-être pas conscient. Moi, je n'étais pas toujours non plus très conscient de cela. Alors, question, as-tu déjà remercié Dieu de ce que d'autres prient pour toi? C'est peut-être aussi un sujet de reconnaissance. On trouve ça naturel, normal, mais je trouve que c'est bien si on arrive à reconnaître et à remercier pour cela. Et encore mieux, as-tu déjà remercié des frères et sœurs parce qu'ils prient pour toi? Tu as peut-être déjà entendu, oui, je vais prier pour toi. Ben oui, ok, mais remercie-le. Alors, c'est un premier équipement qu'il a reçu. Deuxième, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Louise et ta mère Eunice. Ça nous montre qu'il avait des modèles de foi. Philippiens 3, 17, Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Chacun de nous a des modèles de foi. Personne ne se construit seul sans l'exemple d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Vous avez tous des modèles de foi. Personnellement, dans mon jeune âge, je l'ai raconté hier soir, je me suis donné au Seigneur à l'âge de 9 ans et j'ai eu des modèles de foi. D'abord ma mère qui a été pour moi un exemple de fidélité et de persévérance, mes responsables de groupes de jeunes, mes responsables d'église, des frères et sœurs qui, dans un domaine ou un autre aujourd'hui encore, sont des modèles pour moi de patience, de reconnaissance, de service, de sérieux. Et vous savez, on n'a pas besoin d'avoir une grande expérience pour être un modèle. J'ai par exemple été encouragé il n'y a pas trop longtemps par deux jeunes frères, vraiment des jeunes frères qui m'ont encouragé. Ils ont été modèles d'empathie et de spontanéité envers moi. Lorsque je leur avais partagé un sujet de prière, ils ont montré vraiment, ils ont été des modèles pour moi. Et cela m'a beaucoup encouragé. Mon épouse et moi, nous avons récemment visité une sœur de l'Église qui a un cancer, qui se bat depuis quelques mois déjà. Et nous avons été stimulés par l'exemple de courage et de foi et qu'elle a été pour nous. Et ça, ce sont des modèles qui nous sont donnés. Soyons attentifs à cela, soyons reconnaissants pour ces personnes que Dieu a mises. Et d'ailleurs, nous pouvons remercier le Seigneur pour cela aussi. Et encore mieux, nous pouvons remercier ces modèles eux-mêmes aussi. Ça m'est arrivé de remercier quelqu'un en y repensant, lorsque j'avais préparé ce message, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai remercié la personne qui m'a aidé dans ma jeunesse à grandir? Et j'ai eu à cœur de la remercier. X années après, ça l'a encouragé, ça m'a encouragé, mais ça l'a aussi encouragé. Donc soyons un peu plus intentionnels peut-être, et nous pouvons nous faire du bien en disant à l'autre « Merci de ce que tu as été un modèle, tout précisément dans cette situation. » Ça va stimuler notre vie de foi, la nôtre, mais aussi celle à qui nous disons merci. Voilà déjà deux ressources extérieures, on va dire humaines, ce sont des hommes. Paul qui prie, sa mère, sa grand-mère qui ont été des modèles. Et alors, nous pouvons aussi prendre nous-mêmes exemple sur cela et nous dire, nous pouvons aussi intercéder nous-mêmes pour les autres, bien sûr, et être nous-mêmes des modèles pour les autres. D'ailleurs, il dit à Timothée, dans le 1 Timothée, cette fois-ci, dans 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi aussi sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et maintenant, une troisième ressource qui est certainement la plus importante, La plus importante, nous l'avons lue aussi, et d'ailleurs, ça a été prié, quelqu'un a remercié le Seigneur pour cette ressource qui nous a donné le Saint-Esprit. Verset 7, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est l'équipement par excellence qui soutient vraiment tous les autres. Il soutient tous les autres. J'aime bien, dans Parole vivante, j'aime bien comment c'est exprimé. Il est dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Waouh! Alors la timidité, je connais. Ça paraît pas comme ça, je suis devant vous. Mais la timidité, je connais aussi lorsqu'il s'agit de partager l'évangile à quelqu'un. Voilà. Il m'est plus facile de chanter devant des centaines de personnes pour partager l'évangile que de parler c'est comme ça. Donc la timidité, je connais. La crainte, je connais bien aussi. Très bien, je connais la crainte. Et la lâcheté, je la connais aussi. Mais il est dit ici, ce n'est pas cet esprit-là de timidité, de crainte, de lâcheté, de défaitisme que Dieu nous a donné. Mais autre chose. C'est autre chose que Dieu nous a donné. C'est un esprit de courage. Alors j'aime bien cette petite image. Il est dit ici, voilà, il doit abandonner peut-être dans sa construction le petit garçon et la petite fille lui demande, elle ne demande pas que veux-tu faire quand tu abandonnes, mais que veux-tu être quand tu abandonnes. Qu'est-ce qu'on sera si on abandonne? On n'est pas grand-chose. Hein? Mais le Seigneur nous a donné un esprit de courage, de force. Alors, le courage pourrait être symbolisé, la puissance, la force, le courage par le bras. C'est une image. Un esprit d'amour pourrait être symbolisé par le, évidemment. Et un esprit de sagesse, de conseil, de maîtrise de soi pourrait être symbolisé par la tête. Exactement. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce parfait équilibre? Parce qu'il y a les trois choses là dans ce verset. Imaginez-vous, il manque le cœur. Il manque le cœur. Alors, s'il manque le cœur, on aura la force pour le faire, on a la tête pour le faire, les idées, mais il manque la motivation. Mais le Seigneur nous donne tout, les trois. Il nous donne aussi la motivation, la bonne motivation. S'il manque la tête, on a la capacité de le faire, on a la bonne motivation de le faire, mais on n'a peut-être pas le bon conseil. Et parfois, il nous arrive de faire de la casse. Ça vous arrive aussi de faire un peu de casse? Moi, ça m'arrive parfois de faire de la casse. Je suis bien motivé, j'ai peut-être la capacité de le faire, mais je n'ai pas le bon conseil. Je ne le fais pas avec la sagesse que Dieu donne. Et s'il manque la force, alors on a la bonne intention, on a le bon conseil, mais on n'a pas la capacité de le faire. Ben là, finalement, la capacité d'agir, ben là, on n'a que des bonnes intentions. Ça m'arrive aussi parfois, d'avoir que des intentions, mais de ne pas y aller. Mais ce parfait équilibre est là, je trouve, parce qu'il y a tous les trois. Il y a la force, il y a l'amour et la sagesse que Dieu nous donne par son esprit. Nous n'avons pas besoin de le produire. Son esprit, il nous l'a donné. Et le Seigneur veut que nous en fassions usage et que nous réalisions que nous avons cet équipement, que nous avons cette ressource pour le servir et aussi pour affronter les différentes situations. Quatrième équipement, le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Il rappelle cela à Timothée. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Alors, il ne nous est pas précisé quel est ce don, mais Dieu lui a donné une capacité spéciale pour exercer son ministère à Éphèse. Et dans 1 Pierre, il est dit, 4 verset 10, « Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun, j'insiste, a reçu, chacun de nous. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Heureusement que nous n'avons pas tous le même don, ça serait ennuyeux et ça serait limitatif et l'Église serait pauvre. Parce qu'on se bousculerait, n'est-ce pas? Tout le monde le même don. Mais non, les dons variés de Dieu. L'Église est riche des dons qui sont mis au service des autres. Avez-vous découvert votre don particulier? Et le mettez-vous au service des autres? Ou l'avez-vous enterré? Vous vous rappelez la parabole des talents? Ou celui qui avait reçu aussi un talent, au lieu de l'investir dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a enterré dans son jardin et il n'a pas eu les félicitations du maître. Hein. Plutôt l'inverse, il lui a tiré les bretelles hein, et l'a vraiment remis à sa place. Alors, un don de grâce, vous avez tous reçu un don. Mettez-le, s'il vous plaît, au service du Seigneur et de l'Église. Et l'Église en sera enrichie. Et surtout, le Seigneur en sera glorifié. C'est le but de ces dons. Le but de dons, ce n'est pas de se mettre nous-mêmes en avant. Le but, c'est vraiment que lui soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Et ça donne une belle image de l'Église. Et les autres sont encouragés. Parce qu'un jour, là aussi, c'est le pendant, non seulement nous sommes encouragés, mais si nous ne le faisons pas, un jour, nous devrons aussi rendre compte de ce potentiel que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un potentiel, que ce soit... Il peut être très varié. Certains ont des dons matériels, certains ont des dons plus spirituels, plus pratiques, et n'importe. Si cela, un jour, nous devrons rendre compte des capacités que Dieu nous a données. Et nous ne voudrions quand même pas avoir honte devant lui en disant « j'avais ces capacités, mais finalement, je les ai gardées pour moi. » Ouais, c'est pas un peu d'égoïsme, ça? Alors que Dieu voudrait vraiment enrichir l'Église. Vraiment. Et il le fait. Si nous mettons... Ça, c'est notre part. Hein. Nous avons un équipement, mais voilà, il est là pour le rendre à Dieu. Une cinquième ressource que Timothée a reçue. Alors, celle-là, elle ne saute pas forcément sous les yeux. Mais il dit, à la fin de verset 8, il dit, « Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. » Dieu donne la force que Dieu donne pour souffrir. Dans Colossiens 1, verset 29, il est dit « Je travaille et lutte avec la force qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. » C'est Paul qui parle. Alors, chers amis, je ne serais pas là devant vous ce matin si j'avais dû compter sur mes propres forces durant les 6 dernières années. Ma faiblesse me rend dépendant d'un Dieu qui a un réservoir inépuisable de force, de ressources, d'endurance, de courage, de capacité à surmonter l'adversité. Il y a effectivement 6 ans, j'ai perdu ma première épouse suite à un cancer de 15 mois. Je l'ai raconté hier soir, c'était une période très très dure, évidemment. J'ai arrêté le piano, j'ai arrêté tout cela, j'ai arrêté les prédications ou les présidences dans mon église, bien sûr. Je n'étais pas du tout en capacité de faire quelque chose ou d'être devant les autres parce que les larmes venaient à chaque instant. Lorsque j'étais devant les autres, l'émotion me submergeait. Et pourtant, Dieu était là. Et Dieu est encore là. Et Dieu donne la force dans les épreuves, dans les difficultés, dans les moments difficiles et faciles. Et cet équipement nous est donné chaque jour. Et nous suffit pour la journée. D'ailleurs, dans une période d'épreuve, je ne sais pas si l'un de vous ou l'une de vous traverse une période spécialement d'épreuve, n'oublions pas cette parole de sagesse que Jésus a prononcée. Dans Matthieu 6, verset 34, je prends la parole vivante. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine, ou suffit sa peine. Chaque jour. vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui. C'est parole vivante qui l'exprime comme cela. Donc ne nous inquiétons pas déjà de lendemain, du surlendemain, de la semaine d'après. Le Seigneur donne comme dans le désert, le Seigneur a donné la manne pour chaque jour. Le Seigneur te donne, et surtout dans l'épreuve, il te donne la force pour chaque jour. Et il ne manquera jamais. Cette force ne manquera jamais. Elle est là, même si c'est difficile. Il nous donne exactement ce dont nous avons besoin, ni plus, ni moins. Mais notre défi, c'est de dépendre de lui. De dépendre de lui. Alors là, nous avons vu trois ressources extérieures, avant, mais qui venaient de Dieu. Avant, nous avons vu plutôt des hommes qui sont intervenus, les modèles et la prière des hommes. Et là, nous voyons plutôt ce que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, la force qu'il nous a donnée. Et aussi, est-ce que j'avais dit la force, voilà, c'est ça, qu'il nous a donné, et aussi le don particulier que chacun reçoit. Et maintenant, je terminerai par deux autres ressources encore, dont il est question ici. Je garde le souvenir, il dit, je garde le souvenir de ta foi sincère. Dans 1 Timothée, il dit, notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. C'est Paul qui parle. Il m'a accordé la foi et l'amour qui viennent de la communion avec Jésus-Christ. Là aussi, il est question de foi. Une foi sincère. On n'a pas l'habitude d'utiliser l'adjectif sincère avec foi. Mais là, c'est utilisé. Alors, d'où est-ce qu'il vient ce mot sincère ? Dans la Rome antique, une inscription sur bois mentionnait la qualité des poteries ou bien alors une déclaration orale était faite par les marchands sur les marchés. C'était marqué dessus « sine sera ». En latin, cela signifie « sans cire ». La cire, vous savez ce que c'est la cire ? Pour pouvoir contenir de l'eau, les pots en argile devaient être fabriqués d'une seule pièce. Vaut mieux, hein ? Et bien sûr, imperméable. Mais comme il pouvait arriver que le pot se fissure, pour diverses raisons, on utilisait de la cire pour cacher les fissures. D'accord ? De la cire. Et au contact de l'eau, la cire se détrempait et l'eau commençait à couler par ces fissures et qui rendait finalement le pot inutilisable. Et sine sera était donc la garantie d'un objet authentique. Il n'y avait pas de cire là-dessus. C'est authentique, il est entier. Il n'y a pas de fissure. Et symboliquement parlant, être sincère signifie être sans cire, c'est-à-dire ne pas porter de masque. N'est-ce pas ? Une foi honnête, sincère, qui se base sur Dieu. Ça, c'est pour moi la sixième ressource. Et la septième ? Alors, la septième, elle n'est peut-être pas du tout évidente, mais moi, je trouve que c'est une ressource. Certains ne le trouveraient peut-être pas comme cela, mais je pense qu'elle est importante aussi. Il est dit au verset 4, « Je me rappelle ta victoire, tes batailles, je me rappelle que tu étais un super gars. » C'est ça qui est marqué. Qu'est-ce que vous lisez, vous ? Je me rappelle tes larmes. Ah, ok. Je crois qu'il a eu aussi un équipement spécial pour affronter les situations dans l'Église, un cœur sensible. Alors un homme, ça pleure pas. C'est ce qu'on dit à un enfant, un garçon. C'est ce qu'on apprend souvent. Aujourd'hui, j'espère un peu moins. Mais autrefois, on disait souvent, un garçon, ça pleure pas. C'est dur. Et ça a marqué des générations, je pense, d'hommes qui n'ont pas su pleurer. C'est triste de ne pas pouvoir pleurer. Parce que moi, j'ai appris à pleurer aussi. Et je peux vous dire que c'est libérateur. Et d'avoir un cœur sensible, ça c'était un équipement utile pour Timothée. Timothée a passé du temps avec Paul, et le jour où ils étaient séparés, ça a été difficile pour eux, pour lui aussi, Timothée surtout je pense. Et il parle peut-être de ces larmes qui ont coulé lors de cette séparation. Peut-être qu'ils n'allaient plus jamais se revoir, ils le savaient, et c'était dur. Et là, des larmes ont coulé. C'est normal, n'est-ce pas? Et dans 1 Thessaloniciens 2, 8, il dit ces mots forts, « Nous avions une telle affection pour vous que nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore nos propres vies. » Waouh! Quel témoignage! « Vous nous étiez devenus si chers. » Ça, c'est des mots d'affection très, très forts. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, suis-je capable de ressentir des émotions et de développer une vraie affection pour les autres? C'est une vraie question. Là aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et je pense ne pas me tromper en disant que ce n'est qu'au travers de la souffrance que nous pouvons apprendre vraiment cela, cette sensibilité. Un cœur sensible, attentionné pour les autres, qui ne vient pas simplement avec des « yaka, il faut qu'on croit au Seigneur », etc. Vous voyez ce que je veux dire? Des paroles toutes faites, toutes simples, enfin toutes, ouais, ok, comme ça, qu'on peut balancer facilement peut-être. Mais autre chose, un cœur qui écoute, un cœur sensible, qui sait aussi peut-être verser des larmes avec l'autre lorsqu'il ne va pas bien. C'est un équipement dont nous avons vraiment besoin si nous voulons pouvoir aider les autres. Il ne se trouve pas dans les livres, cet équipement. Et il ne se transmet pas non plus de l'un à l'autre. Non. Chacun doit l'apprendre pour lui-même. Et l'exemple de Jésus est marquant, n'est-ce pas? Jésus est l'exemple parfait. Ce n'est pas les hommes qui sont les exemples parfaits, même s'il y a des modèles humains, mais Jésus reste l'exemple parfait. Vous connaissez tous le plus court verset de la Bible, mais pas le moins profond. Jean 11, verset 35, deux mots. Jésus pleura. Il dit beaucoup de choses dans cela, n'est-ce pas? Devant la mort de son ami, Jésus n'était pas là en train de prêcher, etc. Jésus pleura. Il a pris la mesure des choses et il a eu compassion de ses amis. Il a senti combien ils étaient dans le deuil, combien ils étaient tristes. Et lui-même aussi était triste, bien sûr. Il n'était pas au-dessus d'eux, alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter quelques minutes après. Il a pleuré quand même. Il a partagé cette humanité, vous voyez, avec ses amis. Quel bienfait si nous rencontrons une personne qui sait pleurer avec nous, qui est sensible à nos épreuves et qui prie avec persévérance pour nous. Qui prie avec persévérance pour nous. Ça vous rappelle le premier équipement? La boucle est bouclée là. Je prie constamment pour toi. Et là, donc, je terminais là avec deux ressources qui sont plutôt des ressources intérieures. Une foi sincère et un cœur sensible. Que le Seigneur nous aide. Et d'ailleurs, il nous a tous équipés. Nous avons tous ces ressources-là. Nous avons tous le Saint-Esprit si nous sommes des enfants. Nous avons tous ces équipements que je viens de vous donner ici. Hop, je suis allé trop vite. Pardon. Nous avons tous un soutien dans la prière. Nous pouvons l'être pour les autres. Il y a des gens qui prient pour toi, n'oublie pas. Tu te sens peut-être seul parfois, mais il y a des frères et sœurs dans l'église ou d'autres qui te connaissent, qui prient pour toi. Tu as des modèles de foi, c'est un équipement. Tu as le Saint-Esprit, c'est le plus grand équipement. Christ en nous, c'est formidable. Avec toutes les conséquences que cela donne, avec le courage, la force, et l'amour. Tu as reçu un don aussi, des dons, peut-être plusieurs même, alors tu es encore plus responsable de cela. Tu as la force que Dieu te donne dans toute situation, même dans l'épreuve, et surtout dans l'épreuve. Tu as aussi une foi, et c'est reçu une foi, qu'elle soit sincère, qu'elle soit honnête, qu'elle soit entière, et aussi un cœur sensible. Ça se travaille, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme cela. Le Seigneur travaille dans nos vies et dans nos cœurs pour que nous soyons utiles à lui. Donc, nous avons tous été équipés pour traverser les chaînes de montagnes qui se présentent dans notre vie. Tu ne sais pas ce qui demain peut arriver ou cette semaine. Parfois, des choses qui ne sont pas du tout prévues et qui vont tomber dessus comme ça. Une très, très mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vient. Eh bien, on se sent vraiment démunis. Non, nous ne sommes pas démunis. Le Seigneur nous a donné des ressources. Ne l'oubliez pas. Et apprenons aussi à être reconnaissants pour toutes ces ressources et que cela nous donne du courage pour les jours et les mois à venir. Que vous soyez tous encouragés ici à l'église de Wittenheim, que vous soyez bénis et que le Seigneur vous utilise pour parler à la population de cette région qui a tellement besoin aussi de ce Seigneur et de ce Sauveur. Amen.